RFI.
Muy buenos días, mi nombre es Susan Saavedra.
C'est pas du vent.
Buenos días, mi nombre es Hernán Castrillón.
Le magazine de l'environnement sur RFI.
Buenos días para todos. De antemano, muchas gracias por su participación.
Cette semaine, les Émirats Arabes Unis ont organisé, comme chaque année, le World Future Energy Summit, un immense salon de l'énergie qui, et c'est surprenant dans cette partie du monde, fait la part belle aux énergies renouvelables. Peut-être un besoin d'anticiper l'après-pétrole ou de donner le change à une communauté internationale qui se mobilise de plus en plus sur les enjeux climatiques. Or, vous le savez, le pétrole, ce n'est pas bon pour le climat. Quand on le brûle, il émet des gaz à effet de serre et ce n'est pas la chute du prix du baril qui va enrayer sa consommation. L'effort est tout de même à saluer, d'autant que ce forum de l'énergie était organisé en parallèle d'une semaine de la durabilité. Là aussi, ça peut surprendre, mais les Émirats s'intéressent de plus en plus, eux aussi, aux enjeux environnementaux. Bonjour Hervé Gouillet.
Bonjour Anne-Cécile.
Vous êtes le président d'Électriciens sans frontières et vous revenez justement du World Future Energy Summit parce que votre ONG a été nominée au prix Zayed Future Energy qui récompense ceux qui entreprennent dans le domaine des énergies renouvelables. Ça vous a flatté, cette nomination ?
Ah, on était très fier parce que ça, c'était une reconnaissance du travail de l'association depuis 30 ans et de la mobilisation de ces 1000 bénévoles. Donc effectivement, on était assez content d'être nominé à ce prix.
Alors je disais que c'est un peu surprenant qu'on parle énergie renouvelable dans cette partie du monde, mais finalement, ça fait quelques années quand même. Il y a des projets phares, par exemple, comme la ville Masdar.
Il y a effectivement une forte mobilisation des Émirats sur les énergies du futur. Il y a cette semaine des énergies du futur qui est organisée maintenant tous les ans. Il y a le prix Zayed des énergies du futur qui est organisé depuis 8 ans. Et la création en 2006 du projet Masdar, d'une ville à énergie positive, à économie circulaire, bioclimatique, avec énormément de solaire, d'éolien, une combinaison de toutes les nouvelles technologies pour justement essayer d'imaginer cette ville du futur durable.
Oui, mais enfin une économie qui repose quand même toujours massivement sur le pétrole. Hein.
Ils anticipent le fait que dans 150 ans, peut-être que leur réserve sera épuisée et qu'il faudra passer à autre chose. Et ils ont aussi la chance quand même d'avoir un petit peu de soleil. Donc ils peuvent se permettre aussi d'utiliser cette ressource très abondante chez eux.
Alors, Électriciens sans frontières, votre ONG a été créée dans les années 80 par des électriciens bénévoles pour monter des programmes de solidarité. Aujourd'hui, vous réunissez, vous le disiez, plus de 1000 bénévoles et vous intervenez dans 35 pays. Quelle est votre approche ? Comment vous travaillez ?
On travaille... on a deux types d'activités. On intervient en situation d'urgence. Donc là, c'est après le typhon Haiyan aux Philippines, on se concerte avec les autorités françaises, philippines, les autres ONG humanitaires qui interviennent sur place, les collectivités sur place, pour ramener un peu de lumière pour ceux qui ont subi la catastrophe, et aussi aider les humanitaires, les médecins, ceux qui sont en charge de rechercher des victimes ou d'amener de l'approvisionnement en tentes, en vivres, parce qu'ils ont tous des besoins d'énergie et souvent des capacités logistiques limitées en électricité. Donc ça, c'est un volet de notre activité. Donc, les Philippines, on a aujourd'hui quatre bénévoles qui sont aux Philippines suite au typhon Ruby. On en a eu 80 qui ont été en Haïti après le tremblement de terre en 2010. Donc ça, c'est une activité...
L'urgence, mais l'urgence, vous faites aussi du développement
mais ça, c'est
à long terme.
C'est 10% de notre activité. Le gros de notre activité, c'est des projets de développement à long terme, à la demande de parties prenantes locales, que ce soit des associations, des collectivités, des communes dans les pays du Sud, qui nous sollicitent pour prendre en charge le volet accès à l'électricité, accès à l'eau, des projets qu'ils mènent. Donc ça peut être des projets de construction d'écoles, d'hôpitaux ou d'activités génératrices
d'eau. Alors vous n'arrivez
pas
avec un kit tout prêt, vous partez des besoins.
On part des besoins et après, au-delà des besoins, on regarde les ressources. il y a des ressources naturelles, parce qu'il va falloir produire de l'énergie, donc quelles sont les ressources naturelles disponibles pour produire de l'énergie, mais aussi les ressources humaines qui vont être en capacité de mettre en œuvre les systèmes qu'on va installer, qui vont être capables de les installer avec nous, mais aussi ensuite de les entretenir, de les dupliquer, de les étendre, c'est important. Mais les ressources aussi financières, parce que si on fait un système électrique, même si c'est du solaire, l'énergie solaire, elle n'est pas gratuite, donc il va falloir prévoir de l'argent pour changer les batteries, pour changer les ampoules, pour étendre le réseau pour d'autres...
Et puis pour assurer la maintenance.
Donc pour assurer cette maintenance, le renouvellement, il faut de l'argent. Donc il faut un minimum d'activité génératrice de revenus pour solvabiliser un technicien que nous formerons et qui après sera en charge d'entretenir l'installation. Et donc la combinaison entre les services collectifs, l'alimentation électrique des services collectifs, l'alimentation électrique des activités génératrices de revenus et l'alimentation électrique des foyers domestiques. Voilà.
Donc
l'enjeu, c'est d'articuler ces trois types d'alimentation électrique et avec au centre un acteur qui sera formé et qui sera capable d'entretenir et de dupliquer l'installation.
Alors vous travaillez essentiellement en zone rurale. Quelles sont les activités génératrices de revenus, par exemple, que vous développez sur lesquelles s'appuie finalement votre schéma économique?
Le champ est assez, il peut être assez large. On peut recharger des téléphones portables, on peut faire du froid, donc louer voilà, il y a l'artisan qui achète un congélateur et puis qui loue des litres de froid ou qui revend de la glace. Il peut aussi alimenter des machines à décortiquer, à moudre, tout un tas de machines qui utilisent de l'électricité, des machines à coudre, des ordinateurs, des imprimantes. Donc il y a tout un... Après, c'est un peu la place à l'imagination en fonction aussi des réalités locales. Ça peut aussi servir à faire de la confiture pour entretenir...
Donc ce sont des micro-projets, mais enfin, qui aujourd'hui existent quand même dans 35 pays.
Oui, et puis 35 pays, c'est les pays dans lesquels on a des projets en cours aujourd'hui, mais en 30 ans, on doit avoir accumulé pas loin de 300 projets dans probablement 40 ou 45 pays différents. Parce que, voilà, il y a des pays dans lesquels on reste historiquement parce que par capillarité, après avoir été sur un village, on va dans celui d'à côté, ou après avoir fait tel type d'activité, on en fait d'autres. Et puis il y a des pays... pour tout un tas de raisons dans lesquelles on s'est investi et on s'est retiré parce que le taux d'électrification, comme par exemple au Vietnam, a fortement progressé. Donc effectivement, on a moins d'interventions aujourd'hui. C'était au Vietnam qu'on a pu l'avoir il y a 10 ou 15 ans, qui était un des principaux pays d'activité d'Électriciens sans frontières.
Alors pour bien comprendre ce que ça donne sur le terrain, nous sommes en ligne avec Bruno Atolou. Bonjour.
Bonjour madame.
Vous êtes le coordonnateur de l'action Bénin Solidarité Internationale. Alors, vous travaillez sur un programme qui va permettre à 14 villages de Savoulou et de Natinango dans le nord et dans le centre du pays d'avoir accès à l'électricité. Vous avez commencé par électrifier les écoles, 14 écoles, puis ensuite ce sera les dispensaires et l'éclairage public. Alors, rappelez-nous à quel point l'électricité est un enjeu important en zone rurale en Afrique.
L'enjeu n'est même plus à démontrer. Je vous donne deux anecdotes pour vous illustrer tout ça. Dans un dispensaire où nous avons eu un coup de fil à l'infirmière qui nous déclare « je suis contente, je suis au dispensaire, j'ai l'électricité et j'ai une femme que je vais accoucher tout de suite ». Donc vous voyez déjà l'importance. L'électricité en milieu rural change de façon certaine les conditions de vie, de travail des populations. Voilà.
Et votre deuxième anecdote ?
Deuxième anecdote, je passe un coup de fil à un directeur d'école en milieu rural, juste pour avoir une idée pour faire un suivi au téléphone. Il me dit, monsieur Atolou, mais je suis à Cotonou. Je dis, ben tiens, comme vous êtes à Cotonou, je rappelle l'infirmière pour avoir des informations. Je veux quelqu'un sur place. Il dit, non, j'ai la lumière tout comme si je suis à Cotonou.
Voilà. Il se croyait à Cotonou parce qu'il avait la lumière. Alors, vous en êtes où dans votre projet? Est-ce que dans les 14 villages, est-ce que ça avance? On a dit que vous avez déjà réussi à mettre l'électricité dans les écoles, restent les dispensaires, l'éclairage public et les activités génératrices de revenus. C'est très important.
C'est très important. Au jour d'aujourd'hui, tout cela est fini et nous sommes en tournée avec les deux bénévoles Électriciens sans frontières pour la réception. Donc, les écoles sont complètement électrifiées, 13 de façon précise, les dispensaires le sont également, 13 de façon précise, Et donc, les cabines sont mises en route également. Et hier, nous étions dans le dernier village de Savalou, où nous avons engrangé, après 30 jours de gestion, 80 000 francs de recettes pour la cabine de recharge.
Cabine de recharge de téléphone portable.
De téléphone portable, rien que cela. Vous voyez. Donc voilà, la phase 2 est déjà bouclée complètement. Donc nous avons notre regard tourné vers la phase 3 qui va impacter deux hôpitaux, celui de Savalou et celui de Natitengo, bien entendu.
Et le fait d'avoir des activités génératrices de revenus, c'est-à-dire des personnes qui peuvent recharger les portables des autres, c'est ça qui garantit la viabilité des projets dans les villages ?
Évidemment, évidemment, comme Hervé le disait si bien, le soleil n'est pas aussi gratuit que ça. Il faut pouvoir avoir une petite activité génératrice de revenus à côté pour être prêt, n'est-ce pas, à faire face aux nouveaux défis, à changer les batteries, à changer peut-être une plaque qui est vandalisée. On ne sait jamais par un enfant qui a lancé un caillou, etc., etc. Donc l'activité de revenus, de recharge de portable avec précision, pour nous, garantit cela.
Merci beaucoup Bruno Atolo et bon courage pour ce projet au Bénin. Hervé Gouillet, c'est emblématique des actions que vous menez dans les différents pays.
Tout à fait, on démarre par des besoins sur les services collectifs. Qui sont des indispensables pour l'atteinte des objectifs du millénaire et puis plus largement pour sans utiliser ces mots un peu pompeux pour permettre le développement, électrifier des écoles, électrifier des centres de santé, éclairer des services collectifs comme les mairies, c'est indispensable pour permettre le développement. Mais si on s'occupe que des écoles et des centres de santé, c'est une électrification qui est pas durable. Parce que c'est pas les malades qui vont payer en plus pour l'électricité, c'est pas les élèves qui vont payer en plus pour la lumière dans leur classe. Donc il faut qu'on arrive à ajouter une activité génératrice de revenus. Et je pense que le projet Savalou Natitengo illustre bien
ce
triptyque, parce que au départ ils n'avaient pas forcément pensé à aussi mettre en place des activités de recharge de téléphone. Et on s'aperçoit que une activité de recharge de téléphone, ce qui peut paraître ici relativement anodin, puisqu'on a tous l'habitude de brancher notre téléphone sur n'importe quelle prise, n'importe où, ça coûte rien. Là-bas, c'est important. Et on voit que ça génère des ressources non négligeables qui vont permettre de solvabiliser la lumière dans les écoles et dans les centres de santé. Et quand la personne qui sera en charge de la recharge de téléphone portable s'apercevra qu'elle arrive à dégager un excédent sur la recharge de téléphone portable, peut-être qu'elle nous demandera ou qu'elle rajoutera par elle-même, parce qu'elle aura suffisamment d'excédent, un panneau supplémentaire qui lui permettra de recharger un peu plus que des téléphones, peut-être des lampes portables, peut-être d'alimenter directement une ou deux machines.
Voilà, et c'est comme ça que la vie quotidienne change.
C'est comme ça qu'on permettra d'enclencher un vrai cercle de vertueux d'électrification.
I'm
pas du vent. Pour nous écrire, c'est pas du vent, @rfi.fr.
Vous écoutez C'est pas du vent sur RFI, nous parlons de l'accès à l'énergie en zone rurale avec Hervé Gouillet, président de l'ONG Électriciens sans frontières, qui a été finaliste cette semaine du prix Zayed remis lors du World Future Energy Summit qui s'est déroulé aux Émirats Arabes Unis. Et ceux qui ont remporté ce prix, c'est l'ONG Leader of Light. L'idée est simple, encore fallait-il la trouver, une bouteille d'eau en plastique insérée dans un toit capte les rayons du soleil et permet ainsi d'éclairer l'intérieur de la maison. Créée avec le soutien d'étudiants de l'Institut de technologie du Massachusetts, cette bouteille solaire est développée à grande échelle aux Philippines par la fondation My Shelter. Des milliers de foyers dans les quartiers déshérités sont désormais éclairés avec ce système qui a le double avantage d'être facile à construire et gratuit à utiliser. C'est un reportage de Gabriel Kahn.
Il pleut ce matin sur la base militaire de Quezon à Manille, où une vingtaine de militaires des opérations civiles de l'armée s'affairent autour d'une table avec des bouteilles en plastique vide, de la colle et des morceaux de tôle. Le bruit des coups de marteau couvre presque celui de la pluie.
On va utiliser cela durant les typhons et dans les lieux reculés. Il faut mettre de l'eau dedans. On va mettre un peu de produit chimique dedans et après, quand il sera exposé au soleil, il fera de la lumière improvisée.
Cette idée géniale est née alors que l'équipe de la fondation philippine My Shelter construisait sa première école avec des bouteilles en plastique recyclées. Le président de cette association, Iliac Diaz, tente désormais de populariser son invention aux Philippines à travers sa fondation My Shelter, qui veut dire « mon abri » en anglais. Iliac Diaz.
Au moins 3 millions de personnes aux Philippines n'ont pas accès à l'électricité et 2 à 3 fois plus ne peuvent pas se l'offrir. C'est le pays où l'électricité est la plus chère en Asie et qui a l'un des taux de pauvreté les plus élevés. À l'origine, nous construisons des écoles avec des bouteilles en plastique recyclées. En remplissant ces bouteilles avec de la terre pour construire la structure de l'école, nous nous sommes aperçus que l'intérieur de l'école était très sombre. Nous avons donc tenté d'insérer des bouteilles d'eau entre celles qui étaient remplies de terre. Et nous avons remarqué que cela apportait de la lumière à l'intérieur de l'école durant le jour. Nous avons constaté plus tard qu'une autre personne avait eu la même idée. Cela arrive dans un monde peuplé de milliards de gens qu'une découverte soit faite au même moment par plusieurs personnes. Mais nous avons tenté d'en faire quelque chose d'énorme, de créer un modèle d'entrepreneuriat. Nous avons débuté cela à San Pedro Laguna avec un homme au chômage qui avait des notions de base en menuiserie. Nous lui avons offert des outils ainsi qu'une dizaine de bouteilles pour faire un essai. Il a ainsi commencé à éclairer des maisons. Et les gens ont payé pour ses services. Depuis, cet homme a installé plus de 8000 lampes solaires dans son quartier. Donc l'idée est la suivante. Si on donne la possibilité aux gens de construire ces lampes, de les installer et de faire de l'argent grâce à cela, nous créons une nouvelle activité, un travail écologique qui peut s'étendre dans tout le pays.
L'initiateur de cette vaste entreprise, Iliac Diaz, met tout en œuvre pour étendre rapidement cette invention à l'ensemble des Philippines, y compris le recours à l'armée, comme nous l'explique le capitaine Alex Cabales, en charge de la Joint Task Force des opérations militaires civiles dans la région de Manille. Capitaine Cabales.
Nous avons un nouveau plan de campagne intitulé « Plan de sécurité intérieure ». Car nous avons réalisé que les rébellions ne peuvent pas être combattues uniquement par les armes. Il existe de nombreuses raisons qui poussent ces gens à prendre les armes contre le gouvernement. Et c'est ce que nous tentons de corriger. Par exemple, l'absence d'éducation, l'absence de prise de conscience, la pauvreté et bien d'autres choses. Avec ce plan de sécurité intérieure, l'armée des Philippines tente de passer de son rôle traditionnel d'armée combattante pour essayer de résoudre les problèmes sous-jacents qui poussent les gens à combattre le gouvernement.
Quel peut donc être plus précisément le rapport entre la mise en place de lampes solaires et la lutte contre les rébellions qui sévissent aux Philippines ? Nous avons posé la question au capitaine Cabales.
Jusqu'à présent, nous avons construit plus d'un millier de ces... ces appareils, ces bouteilles solaires. D'ici le 30 novembre, nous allons en construire 8000 de plus qui seront installés au sein de 30 communautés dans 16 villes de la municipalité de Metromania, la capitale. Les gens qui combattent le gouvernement disent qu'ils sont pauvres car on ne leur donne pas de travail ou que leur salaire ne leur permet pas de répondre à leurs besoins de base. La fabrication de ces lampes solaires peut constituer une source de revenus pour ceux qui ont un esprit d'entrepreneur. Ils peuvent les construire eux-mêmes et les installer chez les habitants qui le demandent. Ces lampes permettent à ceux qui les utilisent d'économiser ainsi de l'argent qu'ils peuvent dépenser pour des besoins plus importants que l'électricité. Par exemple, l'un de ceux qui a bénéficié de l'installation de ces bouteilles solaires nous disait qu'avant il payait 1600 pesos par mois pour son électricité, car sa maison est totalement sombre et il doit l'éclairer toute la journée. Depuis qu'il a installé les lampes solaires, sa facture d'électricité a été réduite de près de moitié. Le fait qu'il puisse ainsi économiser 800 pesos par mois va l'aider à apporter à sa famille ce dont elle a besoin pour vivre, au lieu de penser à faire de mauvaises choses comme protester contre le gouvernement.
Nous voici dans la voiture d'Ilia Diaz. Comme chaque jour, la circulation est dense à Manille. Nous évoluons à pas de fourmi entre les piétons et les tricycles. Ilia Diaz, à la fois surpris et ravi du récent soutien de l'armée des Philippines à son projet, élabore de nouvelles perspectives.
La première partie du projet est que tout le monde puisse avoir accès aux technologies vertes sans avoir à les importer. Cela implique que tout le matériel peut être trouvé sur place. Dans un deuxième temps, nous pourrions importer et monter des appareils comme celui-ci. On l'expose à la lumière des lampes solaires dans la maison et il peut continuer à éclairer durant la nuit.
Today is a very rainy day. So it's supposed to be much darker than if it was full of sun. But
aujourd'hui, il pleut beaucoup, donc il fait bien plus sombre qu'un jour ensoleillé. Mais comme vous le voyez, tout ce couloir est éclairé par des bouteilles solaires. Et ce n'est pas qu'un peu de lumière. Cela change tout. Cela nous fait passer de l'obscurité à la lumière. Et quand les gens font l'expérience de cela, ils ne peuvent plus s'en passer. Chacune de ces bouteilles produit 65 watts de lumière. Elles éclairent même les murs. Vous voyez l'ombre de ma main sur ce mur ? Cela vous prouve à quel point la lumière de l'ampoule solaire est forte. Il y a une grande différence entre un plafond dans lequel on aurait fait un trou pour faire passer la lumière qui pénétrerait en ligne droite. C'est une invention incroyable et qui ne coûte rien.
Un reportage de Gabriel Kahn, Hervé Gouillet. Que pensez-vous de cette invention ?
Dans la lutte contre la pauvreté énergétique, il n'y a pas de petite solution. Et celle-là, c'est une belle petite solution pour amener la lumière dans les pièces sombres, notamment celles qui sont sombres toute la journée. Et donc c'est bien de pouvoir apporter la lumière, car la lumière c'est vraiment le premier besoin énergétique quand on interroge les populations. Cependant, il faut pas penser qu'on va résoudre tous les problèmes énergétiques. Il faudrait pas penser non plus que parce qu'on a apporté de la lumière dans des meilleures conditions que des bougies ou des lampes à pétrole, on a traité la question de l'accès à l'énergie. Il reste la lumière la nuit dans les rues pour protéger contre les violences. Il reste l'électricité pour le froid, pour les nouvelles technologies, pour les machines. Et donc c'est une très bonne idée. C'est une première étape qui est importante, mais faut pas oublier qu'il y a encore plein d'autres étapes
pour avoir la lumière de jour. Mais c'est vrai que c'est quand même très ingénieux. Merci beaucoup Hervé Gouillet d'être passé dans C'est pas du vent. Merci à François Porcheron pour la réalisation et la mise en onde de cette émission. N'hésitez pas à nous écrire pour réagir à l'émission C'est pas du vent @rfi.fr. Vous pouvez nous retrouver aussi sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter #. C'est pas du vent. Demain, nous vous ferons découvrir la météorologie de l'espace, un espace que nous avons réussi à polluer de tonnes de débris en un peu plus de 50 ans. D'ici là, prenez soin de vous et des vôtres et à demain, même planète, même heure.
Ao, ai, ao, ai, ao, ai. Ishi. My car is not working. My phone is not working. I do it.
to work, don't gonna make it bad. I need a battery, you have to restart me. My clock is not working, computer not working. I have to work all day, don't gonna make it bad. I need a battery, you have to restart me. To drive, the cheetahs disagree. She's living her own life. She's coming after me. My phone rings all the time. I cannot make it stop. I threw it on the floor and I won't pick it up. The time has turned around. My clock is in reverse. Makes me go back to sleep. And this is not a work. I'm locked out and I'm blind. Please update me again. I restart, I restart, I restart. My life is